Vous savez, nous sommes dans le développement d'une série qui peut durer encore quelques mois, je ne sais pas combien de temps, où il s'agit de préciser ce que l'écriture nous enseigne à penser face aux thèses des philosophes. On les appelle, disons, dans un sens assez large, des penseurs qui ont réussi à obtenir une audience considérable parmi les êtres humains dans l'histoire et aujourd'hui encore. Nous avons, la fois dernière, considéré le sujet des institutions en nous accrochant à une formulation du philosophe Paul Ricoeur. Sa définition de l'éthique inclut des institutions justes pour la visée de la vie bonne. Nous avons cherché à cerner la notion même d'institution, qu'appeler une institution, et nous avons cherché à projeter une lumière biblique sur le sujet. Nous avons défini l'institution comme une forme de vie, d'interaction sociale, qui a un rôle de charpente, de structure stable dans la vie commune des hommes, qui est dotée d'un certain coefficient de normativité. C'est-à-dire qu'une institution, ça doit se respecter, sinon ce n'est pas vraiment une institution. Nous avons vu que les philosophes ont surtout cherché à fonder par leur recherche, leur réflexion, leur démarche rationnelle, l'institution de l'État, qu'ils n'ont pas été aussi explicites sur d'autres sujets. Mais nous avons opposé à leur thèse, une thèse que nous croyons biblique, où il s'agit d'une institution par le Créateur, de formes de vie que lui-même revêt d'une certaine autorité, d'une délégation de la sienne, de telle sorte que les négliger, c'est s'opposer à sa volonté, c'est déraper loin de son projet pour l'être humain. Nous avons vu que cela est possible avec la liberté qui est attribuée à la créature, parce que cette liberté n'est que créaturelle, elle dépend de lui comme dépendent aussi les structures de la vie créée. C'est une difficulté que les philosophes ne parviennent pas à résoudre. S'ils affirment la liberté comme un absolu, ainsi que le font un certain nombre, ils ne peuvent pas vraiment rendre compte de structures normatives qui ont une sorte d'épaisseur, qui forment la pâte humaine. Et s'ils donnent tout son poids à ce facteur que finalement l'humanité ne peut jamais négliger sans suicide, ils ne peuvent plus concevoir sa liberté de manière bien ferme. C'est parce que il y a un créateur qui est avant le monde, au-dessus du monde, en dessous aussi pourrait-on dire, qui est à la fois l'auteur de ces structures et le donateur de la liberté, que les deux peuvent coexister de manière harmonieuse. Voilà ce que nous avons, à grands traits, essayé la fois dernière de déterminer. Je voudrais ajouter deux éléments à ce que nous avons dit la fois dernière. Nous n'avons pas eu tout à fait le temps de le préciser. Le premier, c'est que ces institutions détermine notre relation au prochain en tant que membre de la même société que nous. La relation au prochain, elle peut être courte ou longue. Ça, c'est de nouveau un vocabulaire que j'emprunte à Ricoeur. Je vous ai dit que philosophiquement, je lui dois beaucoup. Ricoeur a souligné ce contraste, relation courte et relation longue. La relation courte, c'est la relation purement interpersonnelle entre le « je » et le « tu », entre deux personnes qui se font face. Mais nous n'avons pas envers nos prochains à l'égard de nos prochains, seulement des relations courtes de cette sorte. Nous sommes aussi associés, il emploie le mot latin socius ou socius, duquel vient le mot société, duquel vient aussi le mot associé. Nous sommes concitoyens et notre relation aux autres comme concitoyens tient compte des structures institutionnelles. Ces formes de vie dotées d'un coefficient d'autorité, de normativité, règlent notre relation à nos prochains comme concitoyens associés dans le corps social. Cela, nous n'avions pas le temps de le faire ressortir, je le dis maintenant. L'autre élément concerne la diversité des degrés de normativité. Vous comprenez le mot, hein, il vient de norme. Est-ce qu'une institution impose un comportement? A-t-on ou non le droit de faire autrement? Y a-t-il devant Dieu, puisque c'est pour nous la perspective qui est déterminante, y a-t-il péché ou non à respecter une institution ou ne pas la respecter? Je suggère que vous avez presque tous les degrés, que les lois que Dieu établit pour la vie humaine s'étagent en quelque sorte, cette gradation de l'obligation pure, mais avec une très grande facilité matérielle de ne pas en tenir compte, jusqu'à la facticité pure. C'est un fait, c'est une loi qui régit, mais ça n'a rien de moral. Si on peut ne pas en tenir compte, on a tout à fait le droit. Vous voyez la différence? Dire la vérité à son prochain, ça correspond à une expression de la nature de Dieu lui-même, qui est le Dieu de vérité, comme image de Dieu. Nous sommes absolument obligés de dire la vérité. Mais c'est très facile de dire un mensonge. Il n'y a pas de contrainte matérielle qui nous empêche. Voilà, en gros, à l'un des pôles. L'autre pôle, c'est la loi de la pesanteur. Si nous essayons d'enjamber la fenêtre du deuxième étage et de flotter dans l'air, bon, vous savez ce qui nous arrivera. La loi de la pesanteur, c'est un fait. Il y a facticité maximale à cet égard. Mais essayez de voler, construire des avions, ou auparavant des montgolfières, etc. Il n'y a rien de pécheur à cet égard. En soi, il peut toujours y avoir des motifs d'orgueil et de vanité, etc., qui s'y mêlent, hein, mais en soi, la loi de la pesanteur n'est pas une loi avec un coefficient de normativité morale. On peut l'enfreindre. Et alors, je suggère que les dispositions que Dieu a prises pour l'humanité, au stade de la création, s'étagent, constituent une gamme entre ces deux pôles. Je prendrai un exemple un peu intermédiaire et qui ne concerne pas une institution, mais pour que vous saisissiez bien ma pensée, l'alternance du jour et de la nuit, le fait que le jour soit pour travailler, la nuit pour dormir, etc., c'est une disposition divine. Je pense qu'on peut dire que c'est une loi de la nature humaine qui s'impose en fait, mais quand même pas avec la même inexorabilité que la loi de la pesanteur. On a le droit de travailler la nuit, on a le droit de se coucher le jour, etc. Mais il y a quand même un élément de normativité. Celui qui néglige la sagesse de Dieu dans la disposition du jour et de la nuit et de l'attribution à l'activité et au sommeil, il le paye et ça peut avoir une dimension de péché. Ça peut refléter une rébellion contre Dieu. Et l'apôtre Paul, quand il souligne que nous sommes du jour, que notre comportement doit être du jour, que ceux qui s'enivrent et se livrent à la débauche, etc., c'est la nuit au général, c'est très typique. rapport à la nuit, a un caractère moral, même s'il n'est pas tout premier. Vous voyez ce que je veux dire en parlant d'une gradation d'éléments intermédiaires. Et alors, je suggère que pour les institutions, nous avons des degrés de normativité différents. Les institutions correspondent à une partie de cette gamme, de ce spectre, et toutes les institutions n'ont pas le même degré de normativité. Ne brident pas toutes le même type de respect. Voilà ce que je pense utile de préciser. Alors nous allons en considérer 4 ou 5 les principales aujourd'hui. Considérer la famille qui conjoint en fait 2 institutions, le mariage et le rapport aux enfants qui constitueront la génération suivante, la magistrature ou l'État, comme on voudra, l'institution de l'économie, économique, là je donnerai quelques détails, et l'éducation. Voilà celle que je voudrais passer en revue rapidement, bien sûr, en soulignant surtout quelles questions se posent et passent aux philosophes, aux tendances de la pensée contemporaine auxquelles nous avons à faire face. Passer en revue ces grandes institutions-là, et je voudrais lire en préface donc, de notre travail aujourd'hui les textes fondateurs du début de la Genèse, pour, en tout cas, une ou deux de ces institutions principales. Mais je pense que les autres en héritent aussi, donc que c'est un texte qui est très très largement fondateur. Donc, il s'agit, dans le premier chapitre de la Genèse, de la bénédiction qui est prononcée par Dieu sur le premier couple humain, sur l'homme et la femme. Nous avons, donc pour le 6e jour, hein, c'est le jour de l'être humain, comme aussi d'ailleurs des autres animaux terrestres. Le 6e jour, il y a une solidarité qui est ainsi marquée. Dieu créa l'homme dans son image, ou comme son image. Mâle et femelle, il les créa. Et verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Il y a là un certain rapport au reste du monde en particulier, puis aussi avec le thème de la multiplication, implicitement au moins la procréation des enfants qui sont en cause. Et puis alors, au chapitre 2, je lis un passage un peu plus long qui concerne, on pourrait dire que le chapitre 2, dans un autre style, hein, avec une autre mise en scène, est un développement de ce qui est dit de la création de l'être humain au chapitre 1er, qui est le chapitre prologue et panoramique. Au chapitre 2, vous avez en quelque sorte une vue plus rapprochée et plus détaillée. Alors, Dieu a créé l'homme, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden, et verset 15, et l'Éternel Dieu prit l'homme et il le déposa dans le jardin d'Éden pour le servir et pour le garder. Alors, servir, ça peut se traduire aussi cultiver, mais c'est le verbe qui couramment veut dire servir. Donc, c'est la tâche agricole, horticole, qui est ici en cause. Mais on remarque quand même les deux verbes. Le garder est très intéressant aussi. Le faut-il mettre dessous peut-être pourrons-nous en parler tout à l'heure un peu. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, de tout arbre du jardin, manger tu mangeras. et de l'arbre de la connaissance du bien et mal, tu ne mangeras pas de lui, car le jour où tu mangeras de lui, mourir tu mourras. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon, ou disons pas bon, d'être pour l'homme tout seul, par lui-même. Je lui ferai une aide comme son vis-à-vis. Et l'Éternel Dieu forma, c'est le verbe du potier, duquel façonna, du sol toutes les bêtes de la campagne et tous les oiseaux du ciel, et il amena à l'homme pour voir comment il les appellerait. Et tout ce que l'homme donnait comme nom à un être vivant, cela son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, tous les animaux domestiques, si on le traduit comme ça, mais c'est un nom collectif, et aux oiseaux du ciel, et à toute bête de la campagne. Et pour l'homme, il ne trouva pas une aide comme son vis-à-vis. Et l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil, et un sommeil qui, dans certains passages, a un caractère extatique, très 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 lourd. En tout cas, dans le cas d'Abraham, Dieu avait fait tomber un sommeil sur lui qui était de cette même sorte. C'est un sommeil anesthésique, à certains égards, sur l'homme, et il s'endormit. Et il prit, c'est Dieu, une de ses côtes, et il ferma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu construisit la côte qu'il avait prise de l'homme en femme, et il l'amena à l'homme. Et l'homme dit, cette fois, os de mes os et chair de ma chair, à celle-ci il sera dit femme, car de l'homme a été prise celle-ci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils seront une chair unique. Voilà un passage auquel il fait référence assez souvent, par la suite, dans l'Écriture d'ailleurs, passage fondateur, qui va nous aider pour au moins l'une des institutions que nous avons à considérer, mais je pense plus d'une même. Mais nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide, après tout. Tous ces préliminaires. Est-ce que M. Adélaïde voudrait nous compter dans la prière ?
Amen.
Première institution, considéré quand même par beaucoup, beaucoup de penseurs comme l'institution fondamentale sans laquelle l'humanité n'aurait pas subsisté, celle de la famille, qui, en fait, combine deux institutions qu'il vaut mieux garder distinctes. L'institution du couple matrimonial, et l'institution du rapport entre des parents et des enfants. Il est très frappant que le second chapitre de la Genèse ne mentionne pas les enfants. C'est un avertissement contre une fusion trop rapide des deux institutions dont nous devons parler distinctement, bien que leur jonction soit évidente. Il y a peut-être une toute discrète allusion que je signale au passage. Lorsque le verbe construire ou bâtir est employé pour la création de la femme, Dieu, l'Éternel Dieu, donc, a construit la côte qu'il avait prise en femme. Or, le verbe ici en cause est employé plus tard dans la Genèse pour donner des enfants.
une femme, ça c'est dans l'usage de ce verbe ultérieurement, c'est le verbe ordinaire pour construire, mais une femme peut être dite construite quand elle a des enfants, parce que du coup elle a une maison, une maisonnée. Le mot maison est employé pour la famille et pas seulement pour l'édifice. Et une femme donc s'accomplit, elle est considérée comme ayant sa maison quand elle a des enfants. Et d'ailleurs, le mot fils, et le mot fille aussi, qui est une forme féminine, sont de la racine de ce verbe. C'est le verbe bana, et vous savez, je pense déjà que le mot ben, c'est le mot fils qui est en cause. Donc, il n'est pas exclu, parce que ce texte de Genèse 2 et 3 est plein de finesse, de jeux de mots, c'est une technique très raffinée, littérairement, qui est mise en œuvre par l'auteur, qu'en choisissant ce terme pour la création de la femme, il y ait une allusion au don des enfants. Mais ce n'est pas plus que ça, dans Genèse 2. Et pour les enfants et l'institution, donc le rapport à la génération suivante, il faut se rapporter à la bénédiction du chapitre premier. C'est pour ça que je l'ai lu tout à l'heure. C'est bien dans le texte fondateur, mais ce n'est pas dans Genèse 2, c'est dans Genèse 1. J'ai été alerté concernant cette distinction des deux institutions par une remarque que j'ai entendue autrefois, c'était dans les conversations autour de la revue Ictus, nous travaillons ensemble. C'était Pierre Courtial, qui a enseigné l'éthique pendant longtemps, qui avait fait cette remarque, et elle m'a frappé par sa justesse. Vraiment, c'était... Nous avons très facilement à l'esprit la pensée d'une structure hiérarchique. Le pater familias, famille romaine, a l'autorité sur la femme, et puis on descend d'un cran dans la hiérarchie, et on a les enfants. Ce n'est pas la perspective biblique. Il y a un rapport particulier entre l'homme et la femme dans l'institution du couple, mais c'est un autre rapport qui régit la relation des parents et des enfants. Et dans cette relation parent-enfant, il n'y a pas de particularité, dans les textes au moins, pour le père. C'est le père et la mère qui exercent l'autorité sur les enfants. Les textes des proverbes sont très très frappants. Père et mère sont corrélativement impliqués. Déjà dans le passage introductif du livre des proverbes, mon fils ne rejette pas l'instruction ou la discipline de ton père, ne laisse pas tomber la Torah de ta mère, l'enseignement de ta mère. C'est vraiment une constante. C'est les parents qui, ensemble, exercent l'autorité sur les enfants. Ce n'est pas cette structure hiérarchique. Il y a deux institutions distinctes. Vous voyez l'enjeu? Ce n'est pas nul dans le concret même de la vie familiale. C'est pour cela que je crois sage de bien dire qu'il y a deux institutions, celle du mariage et celle pour lequel j'ai du mal à trouver le terme, du rapport à la génération qui monte. On peut réserver le mot de famille, si on veut, à cette institution-là, l'institution parentale qui régit la relation des parents et des enfants. Alors, pour le mariage, quel est... Pour les philosophes, pour les penseurs d'aujourd'hui, autour de nous, ce qui fonde cette institution, je pense que très peu ont une réponse ferme, mais que la tendance qui domine très fortement, c'est que c'est une formule qui a été utile dans l'évolution de l'humanité, que c'est un fruit, donc, des contingences de l'histoire, certains plus conservateurs diront il ne faut pas y toucher sans précaution, puisque précisément c'est ce qui a permis à l'humanité de survivre jusqu'à nos jours. D'autres diront c'est une affaire qui se situe au plan des faits, des faits de processus, et donc il n'y a aucune obligation morale, aucune normativité qui s'y rattache. C'est comme ça que l'évolution a façonné les générations humaines, mais aujourd'hui nous sommes tout à fait en mesure de passer des solutions plus anciennes que l'évolution avait fait triompher, et nous pouvons changer les choses comme il nous semble bon. Il me semble que c'est l'attitude qui domine alentour, avec à coup sûr, pour une part non négligeable, et c'est le débat, la manif pour tous va encore, disons, toucher le même nerf sensible, mais pour une part très importante de nos intellectuels, en particulier en France, c'est pas seulement en France, mais en particulier en France, depuis le début du XXe siècle, peut-être même nettement avant, il y a un ressentiment très fort contre la conjugalité telle qu'elle a été marquée par l'influence biblique, et quelques autres influences aussi d'ailleurs, telle que elle a été régie par l'autorité de l'institution catholique. Je pense qu'il y a un nombre important de gens qui disent que le mariage est un carcan qui a rendu malheureux des millions de personnes, et en particulier de femmes, et que donc c'est une œuvre de libération qu'il faut entreprendre, pour laquelle il y a comme une obligation morale, que de détruire ces structures aliénantes qui ont été celles du mariage millénaire. Je crois que nous ne pouvons pas ignorer que telle est la façon de penser et de sentir de beaucoup autour de nous. Et les initiatives législatives qui ont été prises, je crois, sont vues, bon, au moins pour une bonne part, par une telle hostilité qui a des arguments. Qui peut citer des tas de situations effectivement épouvantables. Dans le monde pêcheur où nous sommes, le mariage a été une prison et une structure d'oppression pour un bâton de gens. Voilà. Alors, face à cette pensée, quelle est la perspective biblique que nous pouvons essayer de faire valoir? La perspective biblique me semble être qu'il y a une institution doté d'un très fort coefficient de normativité. Que c'est vraiment Dieu qui est présenté comme l'auteur de cette forme de vie et qui en définit les droits et devoirs. Là, il me semble que c'est la structure institutionnelle qui, dans le témoignage biblique, est doté de la plus forte normativité. Avec au moins deux commandements qui déjà s'y rapportent dans le décalogue. Tu ne commettras pas d'adultère et tu ne convaincras pas la femme de ton prochain. Donc vous avez là une protection qui est très, très marquée de cette institution première. Jésus lui-même, vous vous rappelez, cite la parole de Genèse 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et son chair, comme exprimant la volonté du Créateur. C'est le Créateur qui dit cela. Alors, je ne crois pas que Jésus veuille par là dire que dans le récit de Genèse 2, la parole est mise dans la bouche de l'Éternel Dieu. Ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que Jésus veuille dire ça. Mais puisque l'Écriture tout entière est parole de Dieu, donc parole du Créateur, ce commentaire de Genèse 2 du texte comme inspiré peut être considéré comme l'expression de la pensée divine et de la volonté divine, et donc c'est Dieu même qui a défini ainsi le mariage. Alors, quels autres éléments mentionnez-vous ?
Le premier dans notre actualité brûlante, c'est que le mariage présuppose la bisexualité, qu'il va de soi dans toute la Bible que c'est entre un homme et une femme et non pas deux hommes ou deux femmes, ce qui est condamné dans des textes très solennels. Ça n'a même pas besoin d'être précisé parce que, et c'est là l'un des sophismes du discours d'aujourd'hui, je ne connais pas une seule société dans tous les millénaires de l'histoire humaine qui ait appelé mariage une relation et même une relation suivie entre deux personnes de même sexe. Les sociétés qui ont été tolérantes à cet égard, qui ont même peut-être valorisé de telles relations, ne les ont jamais appelées mariage. Il n'y a là aucune hésitation à avoir. Et personne n'aurait eu l'idée d'appeler mariage, avant le milieu du XXe siècle sans doute, une relation entre des homosexuels. Et dire, ah, c'est pas précisé dans les textes, c'est pas mis dans la Constitution, etc. Mais ça allait de soi. Pour affirmer un autre point de vue, il faudrait citer des textes représentatifs d'au moins certaines sociétés, certaines civilisations, où le don de mariage aurait été attribué à de telles relations. Mais on n'en trouve pas, il n'y en a pas. Tout ce que j'ai réussi à trouver, c'est un exemple, mais c'est une parodie de Néron qui, choquant en Rome, ça a choqué à Rome, avait voulu appeler mariage une cérémonie avec de jeunes mignons qu'il s'était choisi. On ne peut pas appeler ça un usage socialement admis dans la société romaine. Donc, cela va de soi, et cela va de soi dans la Bible. Alors, le décalage entre ce qui est héritage millénaire de l'humanité pécheresse, et la Bible, c'est, me semble-t-il, le sens, la fonction fondamentale de ce mariage. La Bible appelle mariage ce que l'humanité appelle mariage, mais Genèse 2 en particulier nous en présente une autre signification, telle que l'a voulu Dieu. Les livres d'anthropologie que j'ai pu lire, entre autres de la petite bibliothèque Payot, un livre sur le mariage de Lucie Maier, M-A-Y-R, je ne sais pas si on prononce son nom de cette façon, donc anthropologue, puis etc., c'est l'assurance d'une descendance légitime. C'est pour les enfants que l'institution du mariage a été conçue, valorisée par pratiquement toutes les sociétés. Pour qu'il y ait une continuité et légitime, par opposition avec la bâtardise. Hein. C'est là la fonction clé en anthropologie que le mariage a joué. Et nous nous rendons compte d'ailleurs que ce qui nous arrive aujourd'hui, où le don de mariage est attribué à des unions de personnes de même sexe, c'est une deuxième étape après la suppression de la distinction au moins concrète, légale, entre descendance légitime et descendance illégitime. Dans le désir de prêter secours à ces personnes qui ont été conçues en mariage, ces enfants adultérins, etc., qui étaient dans l'ordre social antérieur sérieusement désavantagés, et ce n'était pas leur faute. Dans le désir, donc, de remédier à l'injustice qui était commise à leur égard, je crois que c'est dans les années 70, cette distinction entre enfants illégitimes et enfants légitimes a été effacée. Très beau sentiment, hein, désir. Mais au fond, ça, c'était déjà enlevé au mariage le sens qu'il avait en anthropologie millénaire. C'était déjà l'affaiblir de ce point de vue-là. Et je crois que nous avons donc d'autres étapes sur la même voie qui ont suivi jusqu'à ce jour.
dans l'Écriture, comme je l'ai fait remarquer à propos de Genèse 2, il ne semble pas que ce soit la première fonction du mariage. Alors, c'est une fonction importante. C'est la bénédiction hautement prisée, comme on voit tout au long de la Bible, et cette bénédiction est mentionnée en Genèse 1, après la mention précisément de la création des deux sexes. Donc, la Bible en fait un fait de création important. Mais, dans le texte qui développe sur le mariage, en dehors de l'allusion éventuelle avec le verbe banane que j'ai mentionné tout à l'heure, ce n'est pas présent. Et dans les exhortations d'Éphésiens 5, par exemple, c'est d'offrir un miroir, une image du rapport entre Dieu et son peuple, entre le Christ et son Église. Je pense qu'on peut dire que la fonction du mariage dans le projet divin n'est qu'en second lieu pour voir la reproduction de l'espèce, qu'en premier lieu, c'est une fonction qui va avec l'image de Dieu. L'homme créé en image de Dieu doit offrir l'image de la relation de Dieu à son peuple, et le mariage a cette fonction-là, qui veut dire concrètement, pour les deux personnes qui se marient, concrètement, compagnonnage, aide semblable à lui, une aide pas seulement au sens concret, simplement pour faire cuire les œufs, hein, mais une aide, pourrait-on dire, dans l'être. Être seul n'est pas bon pour l'être humain. Et l'aide apportée, c'est l'aide d'être le vis-à-vis. Je pense qu'on peut, tirer ça. Donc, un décalage, une autre fonction. Et à partir de là, alors, on peut, me semble-t-il, interpréter le rapport entre les commandements de Dieu sur le mariage et l'état du mariage dans une société pécheresse. Il est clair qu'il faut faire une distinction. Jésus lui-même l'a mise en valeur en disant « Il n'en était pas de même au commencement, et ici Genèse 2, mais Moïse a tenu compte de la méchanceté de votre cœur. » Et il l'a fait comme le législateur envoyé par Dieu et inspiré par Dieu. Jésus n'est pas en train de dire que Moïse a eu tort, pas du tout, au contraire. Mais il y a une différence entre l'espèce de compromis, de moindre mal, qui correspond à l'éthique et au droit du mariage, à ce qui régit l'institution conjugale dans la Bible elle-même, et le projet divin originel. Ce qui veut dire deux niveaux. J'ai utilisé la paire conceptuelle de l'être et du bien-être pour cela. Quand y a-t-il être du mariage? Et pour ce mariage qui est, quel est le vœu de Dieu qui va lui assurer son bien-être? Vous voyez la différence? Alors, il me semble qu'il y a deux points en particulier qui marquent cette différence de niveau. Le bien-être du mariage, c'est un homme et une femme seulement, monogamie. C'est le projet de Dieu. Et pour la vie. De manière indissoluble. Mais dans le monde pécheur, la Bible me semble montrer que ce peut être un moindre mal que la polygamie, elle est tolérée, ce n'est pas un non-mariage, d'après ce que nous voyons dans la Bible. La polygamie ne représente pas un vrai mariage et puis des adultères pour les autres femmes. Non. L'institution accommode cette pluralité, même si l'Ancien Testament ne porte pas un regard favorable sur la polygamie, on se rend bien compte qu'elle crée des problèmes, etc. Ce n'est pas le projet divin, mais il y a mariage quand il y a polygamie, quand même. Et le divorce est aussi une chose qui est, hélas, possible, mais hélas, à titre de moindre mal, vous voyez, quant au mariage. Vous voyez comment s'articulent ces deux choses sur les deux niveaux du mariage. Alors, il y aurait certainement d'autres aspects encore. Il y a toute la question de la structure d'autorité que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est très sensible aujourd'hui. Je ne vais pas bien cacher, puis sinon, nous passerions tout le temps qui reste à cela, donc pas question. Mais c'est une question qui est assez délicate et où la notion d'autorité requiert définition. Et c'est pas si facile de définir l'autorité. Je n'en dis pas plus parce que je serais en train d'y aller trop loin, mais je vous signale que dans les débats de la pensée contemporaine et notre vocation à y faire face, c'est un sujet délicat à traiter. Ça a des conséquences en dehors de l'institution même du mariage, tout est lié quand même, concernant le ministère féminin dans l'Église. Vous savez que c'est un sujet qui a pas mal secoué notre association baptiste ces dernières années. Il y a un document moyen, un document un peu compromis, qui a été élaboré justement pour que notre association ne se divise pas sur un tel sujet. Le Conseil a dû travailler là-dessus. Notre Église est un peu en pointe et marginale par rapport à d'autres églises de l'association, avec d'autres propres traditions. Il y a eu quelques tensions, il faut le reconnaître, parce que le sujet n'est pas si facile. Voilà, ça c'est une institution. L'institution de la famille comme rapport des parents et des enfants, elle aussi est une institution en crise, dans la mesure où la revendication de la liberté absolue de l'individu, que nous avons vu comme assez caractéristique de tendance forte de la modernité, s'accommode mal de l'autorité parentale. Jusqu'à quel moment, jusqu'à quel degré. Donc, il y a là des sujets difficiles. Il y a aussi toute la question du contrôle des naissances. Je ne parle pas d'avortement parce que là il s'agit du respect de la vie humaine, simplement. Mais par rapport à la fécondité, à l'ordre de se multiplier, qui est la bénédiction, mais qui est un ordre en même temps, dans Genèse 1, il y a quand même une question éthique qui s'élève sur l'usage de la contraception. Il y a des chrétiens évangéliques très marginaux, mais je peux citer le nom de Jean-Marc Berthoud, je l'ai lu, qui sont absolument opposés à toute contraception. Et je crois qu'ils sont très peu nombreux, mais il y en a un, de Jean-Marc Berthoud en Suisse romande. Vous savez que la position de l'Église catholique, qui n'est pas toujours respectée en pratique et de loin, c'est que tout dépend de la méthode. Que la méthode Ogino est permise, la méthode donc qui tient compte du calendrier, qui évite les rapports au moment où la femme est féconde, cela s'est admis, mais non, aucune autre, en principe. Et pour les journalistes, c'est le grand sujet, ils bassinent les papes avec des questions sur préservatifs, etc. Vous savez que c'est... Mais je ne sais pas ce que le nouveau pape va édicter, s'il va marquer une différence, mais il semble qu'en matière morale, il soit très conservateur. Donc, assez peu de chances qu'il change sur ce point d'enseignement qui a été constant dans l'Église catholique. Je signale de nouveau que c'est une question qui concerne donc l'institution familiale avec... Les règles de vie que Dieu y a attachées. Autre grande institution, alors celle sur laquelle les philosophes ont le plus réfléchi, je vous l'ai dit, l'institution de l'autorité civile, de ce qu'on appelle le magistrat. Nous en avons déjà un peu parlé parce que c'était le point de la lecture faite la fois dernière, 1 Pierre 2. Soyez soumis à toute institution humaine, traduisent la plupart des versions. Et j'ai bien souligné que Romains 13 est le texte sans doute le plus développé dans le Nouveau Testament à ce propos, avec l'idée de délégation d'autorité qui est très, très nettement marquée. Quelques points, vous voyez, je signale les éléments qui pourraient susciter débat ou recherche supplémentaire et face aux philosophes. Il y a le moment de l'institution de cette autorité civile. Pas mal de théologiens, dans la tradition protestante, de la Réforme, ont logé cette fondation de l'État ou institution du magistrat après la chute. Du fait que le magistrat porte le glaive pour réprimer les malfaiteurs, ils ont dit que c'est une réaction à l'entrée du péché. Avant, il n'y avait pas besoin d'État. L'autre option, et moi je m'y rattache davantage, c'est de rattacher l'institution de l'État déjà à l'autorité qu'Adam a reçue, et y compris cette garde du jardin que j'ai fait remarquer en lisant le texte tout à l'heure. Soumission de la terre, garde du jardin, il me semble que cela implique l'exercice d'une autorité. Alors tout se passe en douceur et il n'y a pas besoin d'en parler, donc le péché n'est pas entré, bien sûr. Mais je pense que l'institution comme telle commence avant. Mais voyez, c'est un point qui a été débattu parmi les penseurs chrétiens. Il y a la dualité des deux grandes fonctions, du jugement et de la conduite du gouvernement. Je pense qu'on doit les distinguer assez nettement. Le magistrat a pour charge de déterminer, en particulier au cas de litige, ce qui est juste. Il l'enseigne et il l'applique avec louange ou blâme, etc. Mais ce n'est pas la seule fonction de l'autorité civile dans les futurs. Le roi est aussi le berger du peuple qui le conduit, qui contre le loup manie sa houlette. Et cela, donc, en langage plus littéral, signifie qu'il conduit les armées aussi d'Israël. Il est établi par Dieu pour cela dans l'Ancien Testament. Donc, double fonction, judiciaire et gouvernementale, attribuée. Aussi, c'est intéressant à noter. Parmi les questions les plus brûlantes, il y a les limites de la sphère de compétence. C'est une autorité déléguée, je l'avais dit la dernière fois, donc je n'ai pas essayé de le redévelopper cette fois-ci, mais jusqu'où ? Ce n'est pas si facile à déterminer. Il y a un cas en particulier où ça devient très difficile de respecter l'autorité qui a reçu de Dieu délégation en cas de guerre civile, lorsque vous avez deux gouvernements qui se prétendent légitimes et qui s'affrontent. Dans un certain nombre de pays africains, ce genre de choses arrive. Que doivent faire qu'ont dû faire nos frères ivoiriens au moment où il y avait donc le Nord et le Sud qui s'opposaient, Ouattara et Gbagbo, lequel était représentant de l'autorité du Seigneur? Je crois qu'à Madagascar, la situation n'est pas encore clarifiée. En République centrafricaine, à Bangui, où j'avais été pour la faculté de théologie, c'est un dernier, ça, de nouveau, était très très fort. Et là, vous avez des pasteurs qui jouent un rôle, au moins ce sont des références au moment des conflits. Celui qui a présidé la conférence nationale il y a maintenant un certain nombre d'années, mais qui connaît tous les ministres, etc., c'est un ancien étudiant de Fos-sur-Seine à Bangui. Au moment où je suis reparti, comme il était là, il m'a fait aller dans le salon des VIPs, des personnalités à l'aéroport. Hein. Et là, il y avait un certain nombre de ministres, il m'a présenté, voilà, mon ancien professeur, il les connaît comme ça. Il y a des responsabilités que les leaders évangéliques, les pasteurs dans ces pays, ont à assumer, qui ne sont pas si faciles. Quelle est la bonne décision à prendre, au cas de conflit de légitimité en particulier. Il y a la question du pacifisme. La tradition baptiste n'est pas une tradition pacifiste, contrairement à celle des anabaptistes mennonites. Mais aujourd'hui, les frontières sont un peu brouillées. Vous avez des thèses qui divergent sur ce point. Il y a une grande question aussi concernant l'État, qui, je dirais, me travaille un peu, je ne sais pas très bien comment la résoudre, je la signale. C'est celle de la fonction qu'a l'institution de l'État à l'égard des autres institutions, et en particulier la famille. Je pense qu'on doit reconnaître qu'il y a un tel rôle par rapport à l'ensemble du corps social d'après Romains 13. Il y a comme un aspect englobant dans la responsabilité du magistrat. Mais la tendance de l'État moderne, depuis plusieurs siècles, ça a été d'empiéter sur le terrain de toutes les autres institutions. Et je pense qu'il est juste, dans une perspective chrétienne, d'affirmer les prérogatives de la famille comme irréductibles. Ce n'est pas à l'État qu'appartient l'enfant et l'éducation de l'enfant. Appartient. Oui. Mais ça touche aussi l'institution de l'éducation que j'ai mentionnée dans l'introduction. Vous voyez qu'il y a des sujets délicats qu'il faudrait travailler sur cette question-là. Troisième, si on compte la famille, les deux comme une troisième institution, donc celle qui concerne l'économie, évoquée par Genèse 2 comme la culture du jardin, service du jardin. Dans ce qu'on appelle les tables domestiques, ces résumés qui semblent avoir été assez stéréotypés, qu'on trouve dans plusieurs épîtres, des devoirs des uns et des autres. Après l'exhortation au couple, mari, aimez votre femme, etc., l'exhortation sur le rapport intergénérationnel dans la famille, père, n'héritez pas vos enfants. Profitez pas de votre autorité pour satisfaire quelque agressivité secrète ou quelque désir de domination. Et enfin, soyez soumis aussi. Eh oui, les deux. Mais après ça, il y a maître et esclave. Il y a l'unité économique que constituait la maison antique. C'est une unité économique. La maison maisonnée dans le livre des Actes, toi et toute ta maison, c'est pas papa, maman et les enfants, non, c'est même pas la grande famille avec les oncles, les tantes, les cousins, etc. C'est aussi les esclaves, les domestiques, les clients, des gens qui sont satellites en quelque sorte. C'est une unité socio-économique importante. Dans ces tables dites domestiques, il y a donc cette institution-là. Pourtant, je ne vois nulle part une indication très nette que Dieu ait institué le patron comme il a institué le magistrat. Ça, là, il y a une différence très très forte dans le donné biblique. Même si il semble que le patron, le maître, Seigneur, ait quelques reflets de la seigneurie de Dieu dans ses commandements d'Éphésiens 6 en particulier, il n'est pas présenté comme institué dans cette charge avec une délégation d'autorité divine. Ça ne me semble pas le cas. Vous voyez La différence, et c'est pourquoi je trouve tellement utile de distinguer les niveaux de normativité. Mais en même temps, c'est bien la volonté de Dieu qu'il y ait exploitation et collective des biens de la terre pour subvenir aux besoins des uns et des autres. Et la loi donnée à Israël pour l'Ancien Testament règle, dans cette situation-là en tout cas, d'une manière exemplaire, les relations de type économique. Donc nous avons des données très intéressantes qui concernent aussi cette institution à faible normativité, mais à très grande importance factuelle. Vous voyez, parmi les questions qui se sont soulevées, il y a le droit de propriété. Je pense qu'on peut dire qu'il est reconnu bibliquement, et là, face aux philosophes qui ont débattu, c'est de nouveau très intéressant, mais pas comme absolu, avec des limites. Comme une gérance confiée par celui qui est le vrai propriétaire suprême. Donc, sur ce sujet aussi, des perspectives bibliques qui peuvent différer de celles que les philosophes ont choisies. Et puis, dernière institution, j'ai bien dit que je voulais terminer à l'heure, c'est-à-dire à 25, l'éducation. Alors, dans l'écriture, elle semble être une fonction parentale et pas une institution distincte, il faut l'avouer. Mais il y a quand même des écoles. Et celui qui parle dans le livre des Proverbes à plusieurs reprises, comme en disant mon fils, etc., c'est, semble-t-il, quelqu'un d'autre que le père biologique. C'est un père éducatif, un maître qui a un rôle paternel en tant que maître. Mais donc, une institution, on pourrait dire scolaire, de transmission culturelle, commence à se distinguer du rôle de transmission au sein de la famille. Et il me semble que cette distinction est peut-être approuvée, qu'il n'y a pas de problème qui surgissent à partir de données bibliques à son propos. Mais une fois qu'on a dit ça, divers problèmes alors se posent. Et les théories éducatives sont des théories très divergentes, mais qui engagent au bout du compte toute la notion de l'homme et de la finalité de la vie humaine, donc finalement des questions qui sont inséparables de notre foi. J'ai participé au début de la semaine passée à nos journées organisées par Mlle Andruolt et le professeur qui a dirigé son travail de thèse, qui est professeur de sciences de l'éducation à l'Université de Nancy, un colloque qui a eu lieu dans les locaux de l'Institut de nos gens, mais avec des représentants de diverses universités françaises. Donc j'ai participé et il a été question justement des théories éducatives, de la très grande influence qu'a eu un pasteur tchèque de Moravie, Comenius, au XVIIe siècle. C'est vraiment une très grande référence. Il a été un pionnier remarquable et admirable à beaucoup d'égards, mais malgré tout, sa vision de l'enfant n'est pas tout à fait la vision biblique. Et il a beaucoup influencé Jean-Jacques Rousseau, avec la négation du péché originel. Et cela influe sur toute la manière d'éduquer. Faut-il d'abord concevoir l'éducation comme un développement du potentiel qui est dans l'enfant et qui lui permettre de s'exprimer et de s'épanouir? La visée est-elle l'ajustement social? Ou bien y a-t-il des réalités transcendantes qu'il faut lui communiquer pour le structurer en quelque sorte du dehors par rapport à ce qu'il est au départ? Oui. Voilà des questions qui engage la vision biblique des choses et le rôle de l'État par rapport à l'éducation que j'ai mentionné déjà précédemment. Alors une dernière question, certains logeraient l'Église parmi les institutions, feraient de l'Église une institution aussi. Je préfère ne pas classer l'Église parmi les institutions. Ce qui me semble que l'Église, c'est dans la perspective biblique la nouvelle humanité, l'humanité du nouvel Adam, Et c'est donc bien plus que l'institution. Mais comme l'humanité, dans sa première création, elle a des institutions. Il y a des structures de vie commune, il y a des ministères institués qui représentent une institution, etc. Donc, je ne voudrais pas, contrairement à d'autres auteurs, dire de l'Église, c'est une institution, mais il y aurait sans doute à réfléchir aussi sur ce que pourrait être, et comment on pourrait les concevoir, ce que pourraient être les institutions données pour le fonctionnement de l'Église. Voilà, c'est juste là. Nous allons nous arrêter là. Alors, je ne sais pas très bien ce que je vais faire le mois prochain, si Dieu voulant, si vous êtes là, mais je vais y réfléchir. Si vous avez des idées ou des idératas,